Vous écoutez France Culture.
Regarde-moi ce cheval. J'ai jamais vu autant de muscles. Des membres si longs, qui sont faits pour la course, qui sont faits pour fuir le danger. Fuir, c'est le destin de ces chevaux. Nous, on leur apprend carrément le contraire. Foncer vers le champ de bataille.
C'est un cheval de guerre.
Ouais. Un cheval de guerre.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans la marche des sciences et c'est aux bêtes de tranchées que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Dès 1914, les hommes et les animaux arrivent ensemble sur les champs de bataille de la Grande Guerre. Et pourtant, nous avons oublié nombre de ces soldats à quatre pattes, comme on les surnomme. Ces bêtes de tranchées, mortes sous les drapeaux, mais souvent sans les honneurs, enrôlées et oubliées. Entre la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie et l'Autriche-Hongrie, on dénombre 11 millions d'équidés, 100 000 chiens, 200 000 pigeons réquisitionnés pour le combat ou d'autres tâches essentielles auprès de soldats. Porter, guetter, secourir, informer. Des animaux partagèrent leur quotidien avec les hommes projetés dans la guerre, sans parler de toutes les autres bêtes sauvages ou domestiques vivant dans ces secteurs de combat. La guerre en partage avec ses émotions et ses douleurs. Ce sont des situations de rapprochement entre hommes et animaux que l'on retrouve souvent dans les témoignages laissés par des poilus, à l'image de celui de Maurice Genevoix.
Les artilleurs vocifèrent et frappent leurs chevaux exténués pour qu'ils donnent le rude coup de collier. Pauvres bêtes, maigres, les côtes en saillie, les flancs mis à vif par le harnais, la tête énorme épanchée vers la terre. Elles se raidissent, souffrent avec bruit, et leurs grands yeux ternes, souillés de châssis, semblent dire la souffrance résignée. Ceux de 14-1950.
Des récits comme celui de Maurice Genevoix, dont on vient d'entendre, et qui ont témoigné de ce lien tissé, mais qui ont occupé bien peu de place dans notre historiographie officielle jusqu'aux années 2000. Aujourd'hui, éthologie et histoire forment une discipline reconnue, et parmi les tenants de cette histoire animale, on trouve Éric Baratet, notre invité du jour, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 3, auteur du tout récent livre « Bêtes de tranchées, des vécus oubliés » paru au CNRS Éditions. Un ouvrage qui nous fait sentir la place de ces soldats à quatre pattes sur les champs d'honneur, leur vécu, leur rôle et leurs souffrances, leurs actions et leurs émotions, des destins insoupçonnés, une émission émaillée d'archives sonores comme d'habitude et de textes choisis par Anaï Morales. Et puis en seconde partie d'émission, vers 14h45, en partenariat avec le magazine Science et Vie, nous recevrons le philosophe et historien des sciences Michel Blais, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre « Dieu, la nature et l'homme » paru aux éditions Armand Collin. Ce sera le regard porté par cet érudit sur le dernier hors-série de Science et Vie intitulé « Dieu et la science » à paraître demain. Mais pour l'heure, deux disciplines croisées sur un champ de l'histoire délaissée quand l'histoire et l'éthologie scrutent les tranchées de la Grande Guerre.
Je n'ai encore jamais entendu crier des chevaux, et je puis à peine le croire. C'est toute la détresse du monde. C'est la créature martyrisée. C'est une douleur sauvage et terrible qui gémit ainsi. Nous sommes devenus blêmes. De Thérignes se dresse. Nom de Dieu, achevez-les donc. Nous apercevons un groupe sombre d'infirmiers avec des brancards et de grandes masses noires qui s'agitent. Ce sont les chevaux blessés. Mais ils ne sont pas tous là. Quelques-uns continuent de galoper, s'abattent et reprennent leur course. L'un d'eux a le ventre ouvert. Ses entrailles pendent tout du long. Il s'y entrave et tombe, mais pour se relever encore. De Thérignes lève son fusil et vise. Kat le détourne vivement. Es-tu fou ? De Thérignes tremble et jette son fusil à terre. Nous nous asseyons et nous nous bouchons les oreilles. Mais ces plaintes, ces cris de détresse, ces horribles gémissements y pénètrent quand même, pénètrent tout.
Bonjour Éric Baratet.
Bonjour.
C'est un texte qu'on écoute effectivement presque religieusement, je vous voyais, avec la tête penchée. En tout cas, c'est un des textes que vous nous avez proposé pour cette émission, pour l'illustrer. Tiré donc du livre « À l'Ouest, rien de nouveau » de Erich Maria Remarque. Et un livre paru en 1929. Donc il y a des films, il y a des livres hein, comme ça qui ont rendu au grand public ce thème de l'implication et du rôle des animaux dans la guerre. Et en même temps, c'est une histoire méconnue, en tout cas difficile à faire reconnaître comme une discipline, un champ de recherche possible et un champ sérieux. Et vous vous y attelez depuis des années. Bon, on peut dire que là, vous avez quand même creusé plus largement le sillon. Hein.
Oui, j'essaye effectivement. C'est vrai que cette histoire des animaux dans la guerre, les soldats de l'époque en avaient beaucoup parlé jusqu'aux années 20. Et le témoignage de Remarque en est un parmi beaucoup d'autres. Et puis ça a été oublié jusqu'aux années 90. Et depuis une vingtaine d'années, ce sont ce que j'appellerais les historiens amateurs qui sont revenus à ce sujet. Et en fait, c'est un peu toute la société civile qui s'intéresse à ça. Dans le phénomène de, on pourrait dire, de victimisation de la Première Guerre mondiale. C'est-à-dire que cette guerre, évidemment, on l'analyse comme une absurdité, à juste raison, comme une espèce de guerre folle et de guerre civile. Et du coup, les animaux ont pris un statut de victime, exactement comme les soldats. Et on retrouve finalement cette volonté de communauté qu'avaient les poilus de l'époque.
Alors votre démarche à vous, donc finalement vous allez nous l'expliquer parce qu'elle est différente aussi dans la façon de croiser les témoignages, mais surtout cet intérêt du monde animal, il vient d'où ?
Un intérêt personnel pour le monde animal et lorsque j'ai commencé à travailler ce champ, il n'y avait pas grand chose et je m'étais dit que je pourrais faire une thèse d'abord, puis ensuite d'autres livres sur le sujet. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai travaillé sur les relations animaux, mais en regardant le côté humain, comme nous le faisons tous.
Donc de l'histoire humaine sur les animaux.
Voilà, finalement. Ce que j'appelle l'histoire humaine des animaux. Et je me suis dit il y a quelques années que, mais avec ça, on apprend beaucoup sur les hommes, mais on ne sait rien des animaux. Et donc, il fallait passer de l'autre côté, c'est ce que j'essaye de faire. Et alors, ça suppose évidemment, comme vous l'avez dit, une autre approche des documents, une autre lecture, une autre écriture aussi. Ça n'est pas du tout évident. On a tellement l'habitude de parler de nous, les hommes, que se mettre à la place ou au point de vue des animaux, c'est pas du tout évident à faire.
Sans chercher à les faire parler.
À les faire parler, mais essayer de ressentir se demander ce qu'ils ont pu ressentir et essayer d'avoir un style qui essaye de faire ressortir ça, c'est pas du tout évident. Et puis ça demande aussi de croiser ces documents que l'on va lire autrement avec d'autres sciences, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire avec l'éthologie,
avec l'écologie aussi.
L'écologie, avec la physiologie, les sciences vétérinaires, toutes des choses que les historiens n'ont pas beaucoup l'habitude de maîtriser, mais qui, à mon avis, ne doivent pas nous être interdits. Les historiens ont pris à leur charge la démographie, l'économie, la sociologie. Pourquoi pas les sciences de la nature au sens large du terme.
Alors concrètement, quel type de documents vous croisez dans cette recherche et précisément là sur ce livre « Bêtes des tranchées » qui va nous occuper aujourd'hui ?
Alors il y a deux types de documents. Il n'y a rien d'abord du côté des archives militaires. On ne trouve pas grand-chose. Mais les historiens qui depuis une vingtaine d'années travaillent aussi sur les combattants, sur la souffrance des combattants, etc. n'ont pas plus trouvé dans les archives militaires. C'est très officiel comme archive. Et en fait, les deux grandes sources, c'est les témoignages des combattants ou des anciens combattants après-guerre. Et il y en a énormément. Alors, il y a des combattants qui ne disent rien, voire qui éludent complètement les animaux. J'ai trouvé des artilleurs disant « les canons arrivent au galop hein, ». Ce qui, pour quelqu'un qui ne connaîtrait rien de la guerre...
C'est surprenant. Alors finalement, ça voulait dire que ce sont ces chevaux-là qui amènent les canons, qui les tractent.
Tout à fait. Mais il y a quand même beaucoup de combattants qui en parlent énormément, de Genevois, comme vous l'avez cité, à Remarque. Donc tout cela en parle. Et puis il y a toute la littérature vétérinaire, un peu pendant la guerre et puis beaucoup après la guerre. On a notamment des thèses de vétérinaires passées dans les années 20 qui racontent ce qu'ils ont fait pendant la guerre, et ce sont des témoignages évidemment irremplaçables.
Et puis la presse, et puis des photos aussi.
Et les photographies, mais alors les photographies, elles servent souvent à vérifier ce que disent les textes. Je pense par exemple au phénomène de l'embourbement des chevaux dans les trous de buis remplis de boue, notamment en Flandre. Quand on lit les textes, on se dit ils exagèrent peut-être un peu. Et puis les photos nous disent que non, c'est bien un fait réel.
Bon, en tout cas, des millions de ces animaux vont se retrouver réquisitionnés, enroulés.
Vous pouvez me croire, c'est le meilleur cheval de la région, aussi rapide qu'un cheval de course, solide, une belle bête.
Pas de plaie, pas de crevasse. Membre solide, bonne dentition, excellente forme, mon capitaine.
Combien demandez-vous, monsieur, pour cette belle bête, solide et aussi rapide qu'un cheval de course ?
35, et il est à vous.
Non, non, t'as pas le droit. Je l'ai dressé.
Albert.
Désolé, c'est mon cheval, monsieur.
J'ai bien peur qu'il ne soit trop tard, je viens de le payer 30 guinées.
Et à moi, il n'obéira jamais à personne d'autre.
Je peux te donner ma parole d'homme que je veillerai sur lui.
Éric Baraté, on vient d'entendre l'extrait du film de Spielberg, Un cheval de guerre, un film qui a été réalisé en 2011 et l'adaptation du livre pour enfants de Michael Morpurgo, un livre formidable, publié lui en 1982 en Angleterre. D'ailleurs, on parlera des Anglais beaucoup parce que c'est vrai qu'on sent dans votre livre que là, il y a aussi des différences entre les nationalités de traitement avec les animaux. Mais tout d'abord, un bilan des chiffres. Là, on entendait cette scène où donc il y a des ventes, des achats de chevaux, il y a aussi des réquisitions. Hein. Vous citez dans votre livre 11 millions d'équidés emportés par la guerre, dont 6 en Russie, 2,5 millions en Allemagne, 1,88 en France, 1,2 million en Grande-Bretagne. Bon, des chiffres difficiles aussi à manier. Mais en tout cas, vous donnez des chiffres qui, effectivement, rendent l'ampleur de l'engagement de ces animaux.
Oui, on ne se rend plus compte à quel point la guerre à l'époque ne peut pas se faire sans les animaux et notamment sans les chevaux. Et là, il y a un passage d'un discours de Guillaume II, empereur d'Allemagne, en août 14, une phrase absolument saisissante. Il déclare « Nous allons nous battre jusqu'au dernier souffle de nos hommes et de nos chevaux ». Et on voit bien l'union qui est faite dans un discours absolument officiel. Et à l'époque, on ne peut rien faire si on n'a pas de chevaux. On ne peut pas tirer l'artillerie légère, la cavalerie ne peut pas se déplacer, le train, c'est-à-dire le transport, ne peut pas se déplacer non plus. Donc on aurait une guerre totalement immobile. Et c'est vrai qu'on a une image de la guerre de 14 un peu déformée. Hein. On la voit toujours de nos jours comme la première guerre moderne, la première guerre industrielle. En réalité, les hommes de l'époque ne font pas la distinction entre ce qui serait des moyens anciens, qui ne le sont pas d'ailleurs, et ce qui serait des moyens modernes comme les voitures, les camions, les trains, le téléphone, etc., etc. En fait, on mobilise tous les moyens. Et en plus, les animaux ne sont pas des moyens anciens, comme on pourrait le croire. La fin du 19e et le début du 20e siècle, c'est l'apogée en Occident, en Europe, de l'utilisation des animaux. On n'a jamais autant utilisé de chiens dans les guerres qu'à ce moment-là, de chevaux qu'à ce moment-là. Donc ce n'est pas du tout un moyen ancien qu'on mobiliserait avant de tomber dans une guerre moderne, oui. Mais c'est tous les moyens dont on a à sa disposition à l'époque. Et en plus, ce sont des moyens très complémentaires. Les chevaux passent là où les camions ne peuvent pas passer. Les chiens passent là où les hommes ne peuvent plus passer, et les pigeons là où les chiens ne passent plus. Donc il y a vraiment une complémentarité entre tout ça.
Alors les chevaux, on imagine leur rôle. Les chiens, finalement, ce que vous citez, les chiens sanitaires, les sentinelles, les éclaireurs, les chiens estafettes, les ravitailleurs, on n'imagine pas tout ça, tous ces rôles qui ont été les leurs.
Oui, et d'ailleurs, ça montre, c'est très intéressant parce que ça, ce rôle des chiens est dû au fait que dans la bourgeoisie européenne de l'époque, monte le modèle du chien de compagnie, et donc le chien fidèle, le chien qui est là pour son maître. Et donc ces milieux de la bourgeoisie, qui sont souvent où se recrutent les officiers, vont pousser à ces emplois de chiens. Alors le chien sanitaire, c'est celui qui recherche des blessés. Le chien sentinelle, c'est celui qui est dans les tranchées et qui la nuit va écouter ou sentir l'approche de l'ennemi. Le chien ravitailleur, il transporte des grenades, des obus, etc. Et comme il est petit de taille, il peut passer dans les tranchées très facilement, sans se faire voir. Et puis, alors le plus utilisé, c'est le chien messager, celui qui porte des messages en grande partie, souvent de la première ligne jusqu'à l'arrière.
Et alors, parmi les messagers, et vous les citez dans votre livre, et on sent que c'est pas toujours facile de travailler sur ces animaux-là, parce qu'on n'a pas toujours de traces, ce sont les pigeons, mais là, on en a trouvé une.
Verdun, le 23 octobre 1916. À 4h55 de l'après-midi, un pigeon apporta un renseignement griffonné sur une feuille de compte-rendu sali et qui disait que le feu augmentait sans cesse d'intensité dans tout le secteur de Thiaumont à Fleury. À 17h, le 24, on reçut par pigeon un compte-rendu disant que les Français étaient en possession de l'escarpement à l'ouest de Douaumont.
Donc vous avez réussi quand même à trouver ces petits détails. Là, c'est quoi? C'est un document militaire quand même?
Oui, hein, oui, tout à fait. Alors sur les pigeons, c'est vrai que ce sont les animaux pour lesquels on a le moins de textes, le moins de documents, alors qu'ils sont nombreux, quand même 200 000 sur le front ouest, qu'ils sont très importants, puisqu'ils passent, comme je le disais, ils passent lorsque le téléphone ne fonctionne plus, lorsque les moyens optiques ne fonctionnent plus, lorsque les coureurs, les hommes, meurent comme des mouches et sont fauchés les uns après les autres. Lorsque les chiens n'arrivent plus à passer, les pigeons arrivent à passer parce qu'ils sont de petite taille, c'est pas évident de les abattre. Et ces pigeons sont très nombreux, mais on a relativement peu de documents. Les documents, on les a comme ça, par interstice. Alors on arrive là aussi, en croisant avec ce qu'on sait de l'éthologie actuelle des pigeons, on arrive à reconstituer un petit peu ce qu'ils ont pu vivre, mais il y a quand même beaucoup de choses qui restent encore béantes.
Et puis surtout, il faut rappeler quand même que cette époque du début du XXe siècle, ce n'est pas l'époque d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le même rapport aux animaux, la même sensibilité, le même regard aussi.
Et les animaux n'étaient pas comme les nôtres non plus.
Exact.
Alors ça, c'est très net, par exemple, pour les Français qui vont prendre leurs chiens dans les refuges de la SPA ou à la fourrière. Le problème, c'est que les refuges de la SPA et la fourrière à l'époque n'ont pas ou très peu de chiens de compagnie abandonnés, contrairement à notre époque. Ce sont des chiens errants. Et ces chiens errants que l'on va chercher, que l'on embrigade pour être chiens sanitaires, chiens ravitailleurs, etc., il y en a beaucoup qui n'ont pas du tout envie de collaborer. C'est pas du tout le modèle du chien de compagnie, affectueux, docile envers son maître, obéissant, prêt à tout pour lui. Une image qu'on développe dans la bourgeoisie de l'époque à propos du chien de compagnie, mais les chiens qu'on utilise ne sont pas du tout faits comme ça. Et il y a pas mal de désertions, il y a pas mal de résistances. On trouve des textes comme quoi tel ou tel chien est inattentif, aboie, etc. Et en fait, ça vient aussi du fait que beaucoup de soldats qui viennent des milieux ouvriers, des milieux paysans, ont une relation assez lâche, assez froide, assez distante avec les chiens. Ils n'ont pas la relation du maître avec son chien de compagnie.
Et là, on sent des différences entre les différents pays impliqués dans cette guerre aussi, des façons de faire.
Tout à fait. Alors, les grandes différences, si on peut dire, en schématisant, il y a deux blocs. Il y a les Italiens, les Français d'un côté, les Anglais, les Allemands, les Autrichiens de l'autre, qui ont des approches totalement différentes. Hein, pour faire court, du côté anglais, on considère que chaque chien a sa psychologie individuelle, est une individualité propre dont il faut tenir compte. Donc on va essayer de comprendre son caractère pour en tirer plus profit. Du côté français, c'est le modèle de l'animal-machine. Et donc, on va apprendre à conditionner les chiens, à en faire un peu des moteurs, et sans tenir compte de la psychologie. Et on ne tient pas compte non plus de l'affectivité qui doit avoir lieu avec le maître. Alors que c'est très important chez les Anglais, chez les Français, ça ne doit pas avoir lieu d'être.
Et justement, chez les Anglais, on le retrouve dans un des textes que vous nous proposez, Éric Baratet, c'est celui d'un certain Richardson, qui était organisateur de la formation des chiens réquisitionnés pour la Grande-Bretagne.
Mon expérience, écrit Richardson, tend à montrer que la plupart des hommes qui avaient effectivement travaillé avec les chiens toute leur vie n'ont pas été nécessairement les meilleurs. La confiance et l'affection complète doivent exister entre les chiens et le gardien. Et l'homme, dont la seule idée est le contrôle par la contrainte et la peur, est tout à fait inutile. J'ai constaté que beaucoup d'hommes, qui sont censés être des experts des chiens, ne sont pas suffisamment sympathiques et sont trop enclins à considérer le chien comme une machine. Ils ne font pas assez preuve de la psychologie nécessaire à la fonction. Un autre type d'homme à éviter est celui qui a formé ou élevé quelques chiens et qui pense, en conséquence, qu'il sait tout ce qu'il y a à savoir. Certains des gardiens les plus efficaces, c'est-à-dire qui ont obtenu les meilleurs résultats et été les plus utiles lors de l'instruction, étaient ceux qui n'avaient aucune expérience préalable des chiens, mais qui avaient un amour naturel des animaux.
Ça, c'est donc ce texte de ce Richardson que l'on retrouve dans votre livre, Éric Baratet, et on sent cet autre regard, cette considération. Les Britanniques sont assez exceptionnels quand même hein, dans la démarche. On retrouve même leur façon de faire différente hein, sur le terrain aussi de l'éthologie historique. On peut dire qu'ils ont été les premiers à écrire aussi l'histoire animale.
Hein. Tout à fait, avec Darwin, le premier.
Et puis après, donc au XXe siècle, en tout cas,
oui, on voit bien que là, il y a un phénomène culturel très fort hein, dans cette différence d'approche qu'on retrouve de partout. On le retrouve pour les chevaux, par exemple. Quand on regarde comment Anglais et Français traitent les chevaux américains qu'ils vont acheter donc, en Amérique du Nord ou en Argentine, et comment ils les font traverser l'Atlantique, la différence est absolument étonnante. Hein. Côté anglais, on fait attention aux animaux, on prévoit par exemple de les sortir sur le pont extérieur du navire, de leur faire faire des exercices, les nourrir convenablement, on tient compte de leur psychologie pour les mettre les uns à côté des autres. Côté français, on est animé, là encore, par le modèle de l'animal-machine, du cheval-moteur.
Remplaçable, c'est-à-dire ça passe ou ça casse, et
exactement.
Celui qui est mort, on le remplace.
Tout à fait, et donc on entasse littéralement les chevaux dans les navires, on ne songe même pas, on enlève même les passerelles pour que ça prenne le moins de place et pour qu'on puisse en entasser le maximum, et si un cheval meurt, on ne peut pas l'évacuer. Autrement dit, il reste au milieu des congénères vivants tout le temps de la traversée. Et or, on sait que ça perturbe énormément par l'odorat, par le toucher, ça perturbe énormément les chevaux vivants. Mais ça, côté français, on est totalement hors de cet intérêt. Et le pire, c'est ces navires venant d'Argentine qui doivent traverser l'équateur. Au début, on a énormément de pertes parce que les chevaux meurent d'étouffement dans les cales à cause de la chaleur. Et donc, on décide de construire des ponts extérieurs en bois, des cages en bois que l'on met sur deux étages. Et ces chevaux donc, sont mis dans ces deux étages de cages en bois. Mais ils ne sortent pas, ce qui fait que durant toute la traversée, les chevaux de l'étage supérieur font urine et font leur excrément sur les chevaux de l'étage inférieur. Et on sait très bien que pour un cheval, sentir les excréments sur soi des autres, c'est absolument perturbant et stressant. Eh bien, j'ai trouvé un texte d'un vétérinaire disant que ça ne entraîne que quelques inconvénients.
D'où votre attachement dans ce livre aussi à essayer de nous rendre ce stress, la souffrance et donc ces sentiments que l'on essaie de percevoir chez ces animaux malmenés. Comment on parvient à ça, Éric Baratet ? Parce que vous le faites remarquablement bien, mais on se dit que quand même, il faut aller déceler tout ça aussi.
C'est en croisant, comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, en croisant ce que je trouve dans les textes et puis l'éthologie actuelle. Alors en croisant, non pas en contrôlant, parce qu'il y a des choses que les éthologues actuels savent, et puis il y en a d'autres qui ne savent pas, parce qu'on n'a pas les mêmes chevaux et on ne les utilise pas de la même manière. Et à l'inverse, les gens de l'époque savent des choses et par contre ne comprennent pas d'autres choses. Et donc en croisant tout ça, on arrive quand même à comprendre ce qui se passe du côté de ces animaux et à essayer de le restituer. Alors après, il y a le jeu de l'écriture. C'est aussi tout un effort pour arriver à renverser l'écriture, à ne pas parler des hommes, mais à parler des chevaux ou des chiens ou des pigeons.
Alors ces bêtes vont devenir des bêtes donc de guerre et de combat aux côtés des hommes. Et notamment, il y a dans votre livre le témoignage que l'on retrouve de Céline, qui était cuirassier aguerri depuis 1912.
Dans la Lourde, ce n'était pas le cavalier qui comptait, mais le bourrin. C'est le cheval qui charge. Allez donc arrêter un cheval qui s'emballe, entraîné par les autres. Et à plus forte raison, lui faire faire demi-tour si la peur vous prend au ventre. Le bonhomme n'a plus qu'à s'efforcer de rester dessus et à donner de grands coups de sabre à droite et à gauche pour dégager ses abords.
Céline, donc, qui donne ce témoignage-là et qui, lui, exprime son attachement, et notamment à son cheval.
Oui, parce qu'il sait très bien que c'est la bonne santé de son cheval est le meilleur garant de sa survie. Oui. Et il y a beaucoup de cavaliers qui le savent et qui essayent de faire attention. Alors, ce témoignage est très intéressant parce que Céline, ce n'est pas un bleu, ce n'est pas un enrôlé. C'est un soldat de carrière. Il a déjà 2 ans à peu près d'expérience dans la cavalerie. Et il a plusieurs textes comme ça où il montre bien, finalement, ce que vit un cavalier lors d'une charge. Et avec cela, avec l'éthologie équine, on arrive à comprendre aussi ce qui se passe du côté des chevaux. Et on voit bien que ce qu'on comprend finalement, qu'on ne trouve pas dans les textes, et que nous, on a un peu perdu de vue parce qu'on n'a pas le même vécu avec les chevaux, on s'en rend compte que les charges de cavalerie, on était obligé de charger groupé pour que les chevaux ne prennent pas peur, qu'ils n'aient pas l'idée de retourner, d'aller, parce qu'en fait, on laisserait les chevaux, on les mettrait en ligne les uns à côté des autres et chargeant, les bruits, les vues des cadavres, les cris, etc., feraient qu'ils prendraient peur et ils repartiraient dans l'autre sens. Alors là, on est donc obligé de charger groupé. Et on est obligé de charger groupé alors que ce sont des charges suicidaires, puisqu'en face, vous avez des mitrailleuses. Et on se rend compte finalement à quel point les hommes étaient dépendants des bêtes, puisque pour pouvoir les utiliser, il fallait finalement les utiliser d'une manière quasiment suicidaire.
Et le dévouement des bêtes, parce que ces bêtes, elles subissent un autre stress, évident, c'est le changement incessant aussi d'hommes, c'est-à-dire soit à cause des permissions, les mutations, les hommes blessés ou les hommes morts. C'est vrai qu'en permanence, elles changent de main en main.
Oui, et alors on a beaucoup de témoignages pour les chiens, parce que peut-être les hommes sont plus sensibles à ça, et on sait qu'il y a des chiens très perturbés par ce témoignage, ce changement de propriétaire, qui peut arriver assez souvent, et on a des chiens qui désertent, qui ne travaillent plus, qui tombent en dépression, parce qu'ils peuvent évidemment passer d'un maître attentionné à un maître, au contraire, qui a une relation très, très distante, voire violente avec eux, et ce sont à chaque fois des stress qui font qu'ils travaillent plus ou moins bien, et les gens de l'époque le savent bien, un chien qui ne travaille plus, un chien par exemple messager qui ne travaille plus, ou un chien ravitailleur qui déserte ou qui s'arrête ou qui ne revient pas, c'est souvent parce qu'il y a un problème avec le conducteur.
Et dans le cas des chevaux, c'est quand même aussi Spielberg avec ce film Cheval de guerre qui a rendu quand même ce stress aussi des changements permanents.
C'est un bon cheval, mon commandant. Mais si on le met au transport de l'artillerie lourde, il ne tiendra pas le coup. Prince est déjà en mauvais état. Et ses jambes sont complètement...
Vous leur donnez des noms ?
Oui, mon commandant.
On ne donne pas de noms aux choses que l'on est sûr de perdre.
Il n'est pas en assez bonne condition.
Soldat, vous ferez ce que l'on vous dit. Attelez ce cheval !
Alors, est-ce qu'on donnait des noms comme ça facilement, Éric Baratet ?
Alors, il y avait des matricules officielles et puis les soldats donnaient des noms aux chevaux, mais c'était des noms officieux. Alors, avec le problème, c'est que si le cheval changeait de cavalier, son nom changeait aussi. Et puis, il faut penser aussi que beaucoup de soldats, par exemple en France à l'époque, ne parlent pas le français, parlent patois. Donc, pour ces chevaux qui passent de maître en maître, ce sont des sons nouveaux, des mots nouveaux, des touchés nouveaux. Et c'est extrêmement stressant pour eux. Et puis, il y a aussi ce que le film là évoque bien, le fait que ces chevaux, par exemple des chevaux de trait, un cheval de mine... pouvait se retrouver avec une selle et un cavalier sur le dos, ce qu'il n'avait jamais eu, ce qui le déroute totalement. Et puis, on leur demande des choses souvent contradictoires. Par exemple, les chevaux lourds, habitués à traîner, par exemple, des wagons dans les mines, des wagons très lourds, 1 tonne, 2 tonnes, mais sur 200 mètres, 300 mètres. On va leur demander de trotter, voire de galoper ou de marcher sur 50, 70, voire 100 km par jour. Ils ne sont absolument pas faits pour ça. Et l'été 14, ils meurent comme des mouches. Les deux types de chevaux qui meurent énormément, enfin beaucoup dans l'été 14, c'est les très lourds, les chevaux de mine, les chevaux de tramway, par exemple, dans les villes, les choses comme ça. Et puis de l'autre côté, les pur-sang, qui eux sont habitués à aller vite, mais sur quelques des petites distances. Là aussi, ils ne sont pas habitués à aller sur 50, 70 km par jour et répéter plusieurs jours de suite. Et en fait, on voit bien que là aussi, et c'est très net côté français, on a tellement l'idée du cheval moteur, qui est la grande expression de l'époque, qu'on en vient à se persuader que les chevaux sont des machines. Et donc, on leur demande des choses qui sont totalement hors de proportion de leur physiologie.
Oui, sans se poser la question du temps d'adaptation et de la formation nécessaire, alors qu'on se pose ces questions-là véritablement dans le camp anglais et le camp allemand, un peu plus.
Oui, par exemple, côté anglais...
Avec des recommandations officielles, d'ailleurs, bien de sûr, bien traiter les animaux.
Bien sûr, côté anglais, il y a des maîtres des chevaux dans les régiments, qui sont là pour conseiller les soldats pour l'utilisation des chevaux. Et la cavalerie anglaise, par exemple, est obligée, lors des marches, elle est obligée régulièrement de descendre de cheval, d'enlever les selles, de marcher à côté, alors que côté français, il ne vient pas à l'idée des cavaliers et des officiers de descendre des chevaux. Les chevaux ne sont pas décellés jour et nuit, parce que s'il y a une alerte, il faut pouvoir partir vite. Et on a des problèmes de chevaux blessés au dos d'une manière extrêmement forte. Hein, jusqu'à, on a des textes qui racontent qu'il y a des chevaux, à cause du frottement de la selle et du poids des hommes, ils ont la peau enlevée, les muscles atteints, voire ça frotte sur la colonne vertébrale. Hein, ouais. Et donc c'est extrêmement douloureux pour ces bêtes.
Et ces blessures, on n'en a pas parlé, mais on peut parler aussi des blessures de guerre, hein, par obus, par balles, les barbelés aussi, les gaz, hein, parce qu'ils subissaient ça. Et ces animaux qui aussi avaient quand même un instinct et une façon de sentir le danger, l'arrivée des obus bien supérieure aux hommes et qui servaient aussi à les alerter.
Oui, parce que ça, il y a beaucoup de témoignages qui montrent que aussi bien les chats, les chiens, les chevaux, voire les ânes, etc., faisaient la distinction entre les obus. Sans doute au bruit procuré par l'obus en vol. Et on sait qu'il y a plein d'animaux qui ne bougeaient pas lorsque c'était les obus de leur camp qui passaient au-dessus, mais qui s'enfuyaient. Voire, on a des cas d'ânes, des ânes qui avaient appris, comme les hommes, à se jeter dans les trous, qui faisaient cela lorsque c'était les obus adverses qui arrivaient. Parce qu'au son, ils savaient que ça allait taper ici. Et on a la même chose pour les chiens ou les chats qui restent sur le parapet tranquillement à se lécher, à faire la sieste lorsque c'est les obus de son camp qui passent et puis qui partent vite dans les abris lorsque ce sont les obus adverses qui arrivent.
Et presque 33 minutes, c'est la suite de la Marche des sciences sur France Culture et une plongée dans la Grande Guerre et le rôle joué par les animaux, leur vécu, leur endurance, les traumatismes, la performance, la relation avec les hommes. On en parle avec notre invité aujourd'hui, Éric Baratet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Lyon 3, auteur du livre « Bêtes de tranchée, des vécus oubliés », un livre qui vient de sortir au CNRS édition, donc des destins croisés entre hommes et animaux, des sciences croisées aussi entre éthologie, écologie et histoire, et donc pour nous rendre effectivement cette histoire animale. Éric Baratet, donc là à nouveau c'était un extrait des scènes très fortes de ce film Cheval de guerre, hein, signé Spielberg. Là, on n'aura peut-être pas le temps de parler de tous les animaux, vous évoquez aussi dans votre livre bien d'autres bêtes, le tribut payé par le monde animal, c'est aussi les bêtes abandonnées dans les fermes, les troupeaux sacrifiés, hein. C'est vrai qu'on les retrouve aussi sur ces champs de bataille. Et puis alors, je vous évoquais la résistance des animaux sauvages, et notamment les oiseaux.
Oui, c'est quelque chose qu'on avait totalement oublié, c'est la présence des animaux au front, notamment les animaux domestiques de ferme, parce que les combats ont lieu en pleine campagne, autour des villages, et donc oui. les paysans s'enfuient, mais ils laissent leurs bêtes sur place. Il y a des animaux comme les chats, les chiens aussi, qui vont arriver en masse dans les tranchées pour tenir compagnie aux soldats. Et puis, il y a tous les animaux sauvages, évidemment, qui sont là. Donc, les lapins, les lièvres, au moins jusqu'en 1916, parce qu'avant les grandes offensives du style Verdun, entre les tranchées, il y a souvent de l'herbe. Enfin, le paysage n'est pas ravagé, totalement ravagé, comme à partir de 1916. Et on a beaucoup d'animaux qui se trouvent très bien là, au milieu des combats, parce qu'ils sont souvent ils sont respectés, alors plus ou moins selon les bêtes.
Oui.
Et puis il y a tous les oiseaux, alors dont certains sont capturés, vont tenir compagnie aux soldats qui capturent donc des geais, des merles, des hiboux.
Qui leur apprennent quelques mots pour certains.
Qui leur apprennent quelques mots, voilà. Il y a un artilleur qui raconte comment son lieutenant venait régulièrement voir ces oiseaux et leur apprenait à dire trois mots, pièce, c'était dans l'artillerie, hein, pièce, feu et zut. C'était un moyen évidemment de se moquer de l'artillerie française un peu maladroite. Et ces animaux attiraient les soldats. C'était vraiment pour eux un élément finalement pour échapper à l'enfer, hein, un soutien psychologique, à retrouver une vie. Alors ils analysent souvent ces animaux comme des symboles de la vie quotidienne.
Oui.
Sans voir qu'en fait, ces animaux sont tout autant perturbés par cette guerre que les hommes eux-mêmes. Mais ils croient quand même que c'est une image de la vie quotidienne. Et donc, ça leur permet de rêver à la vie d'avant ou à la vie d'après, s'ils arrivent à survivre.
Je vous propose d'écouter encore un texte lu par Bei Djennati Ataï, toujours à nos côtés, en direct, dans cette marche des sciences. Et c'est un texte justement qui est le témoignage du lieutenant Adams, un lieutenant qui attendait sur une colline intacte le déclenchement de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916. Et il écoutait les alouettes, et voici ce qu'il ressentait dans ces moments-là, cette façon aussi à la fois d'oublier la guerre, de penser à la vie.
J'ai ressenti un désir fou de monter et de courir dans le No Man's Land en criant que ce jour était fait pour les amoureux, que nous avions été entraînés dans un cauchemar insensé, qu'il était nécessaire que le rire d'un homme audacieux nous libère de cet engrenage. Pourtant, j'ai senti combien ce désir était vain et désespéré quand je me suis retournée et que j'ai aperçu les premiers rayons obliques du soleil donner vie au sac de sable blanc.
Témoignage qui effectivement nous transperce, j'ai envie de dire. Mais c'est ce symbole des animaux, et là des oiseaux, symbole de la vie, à tel point qu'on a envie de tout arrêter, bien évidemment, du massacre qui est en train de se perpétuer.
Oui, et c'est un témoignage qui montre à quel point il peut y avoir aussi des réactions différentes. Mmh. Il y a ceux qui apprécient les animaux, qui les regardent parce que c'est un moyen justement de s'accrocher à la vie. Et puis il y en a d'autres qui ne supportent pas et qui trouvent absolument injuste que ces animaux puissent continuer à vivre normalement, entre guillemets, alors qu'en fait, ce n'est pas le cas, mais pour eux, normalement, alors qu'eux vont à la mort. Et ces soldats-là se mettent à tirer, par exemple. On a des témoignages de soldats italiens qui tirent sur des écureuils qui sont dans les arbres, parce que ça devient intolérable, hein, qu'eux soient dans l'enfer, et puis que les autres, ces animaux, se promènent devant eux, et insouciants, entre guillemets, en apparence, rend leur condition absolument insupportable.
Oui, c'est tous ces cas très, très variés que vous nous rendez dans votre livre « Bête des tranchées », Éric Baratet. Et c'est cette difficulté peut-être aussi de mesurer à quel point est-ce qu'il y a du positif ou du négatif, à quel point est-ce que cette relation homme-animal a été plutôt une relation marquée par la souffrance ou par presque des amitiés.
Il y a eu les deux. Il y a beaucoup de souffrance du côté des hommes, évidemment, du côté des animaux, mais il y a aussi... Dans la souffrance, il y a aussi la connivence. Et j'ai retrouvé des témoignages de soldats qui, lorsqu'ils meurent, demandent qu'on leur amène leurs ânes ou leurs chevaux ou leurs chiens pour les avoir à côté. À l'inversement, il y a des témoignages qui montrent comment des soldats ont été totalement traumatisés par la mort de leurs animaux, de leur cheval ou de leur chien. Et on a des scènes là extrêmement pathétiques parce qu'il y avait des relations très fortes qui s'étaient mises en place. Sans doute, évidemment, entretenu par le caractère exceptionnel de la guerre. Et cette connivence des hommes et des bêtes, on la trouve dans énormément de témoignages. Vous prenez ceux de 14 de Genevois, il y a plein de témoignages. Il y en a énormément et les soldats en ont beaucoup parlé ensuite après-guerre jusqu'aux années 20 parce que vraiment ça les avait marqués.
Des hôpitaux ont été également installés pour soigner les animaux ?
Oui, alors ça, c'est une initiative anglaise et allemande aussi, des deux côtés. Au départ, en fait, comme tout le monde croyait à une guerre courte, l'idée, c'était de ne pas intervenir. On n'allait pas ralentir la marche des armées en s'occupant des animaux, et notamment des chevaux. Donc, il y avait une espèce de théorie de la non-intervention. Et puis, quand au bout de quelques mois, on a vu que cette guerre commençait à durer, les Anglais d'abord, les Allemands, puis ensuite les Français se sont dit qu'on ne pouvait pas sacrifier comme ça ces animaux, parce qu'après, il y aurait un problème de renouvellement, tout simplement. Et donc, se sont mises en place des structures, et les Anglais ont notamment installé des hôpitaux pour chevaux. Et il y a eu deux associations anglaises, deux associations privées, qui ont aussi ouvert des hôpitaux pour l'armée française. Ils ont fait ça aussi en 1915-16 en Italie. Et les Allemands, les Autrichiens ont fait pareil de leur côté. Et c'est vrai que l'époque est une époque de forte inventivité vétérinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas faire avant 14, qu'en quelques mois ou en un ou deux ans, on va très vite apprendre à faire du côté des vétérinaires.
Alors ces animaux, alors on parlera pas aujourd'hui, hein, Éric Baratet, des autres animaux qui eux sont des profiteurs de guerre. Hein, ce sont ces mouches, ces rats, les souris, les puces, les poules, la vermine. Enfin voilà, ça aussi faisait partie de ce décor des tranchées. Mais restons sur ces animaux qui étaient des auxiliaires. Ils furent pour certains des trophées, des mascottes. Qu'est-ce qu'on sait des citations, des décorations, de la reconnaissance qui a été exprimée à leur encontre?
Alors, côté français, c'est relativement, c'est relativement faible et puis c'est surtout officieux côté français. C'est-à-dire c'est souvent à l'échelle du groupe, voire du régiment, que l'on décore les animaux. On n'ose pas trop aller loin dans le côté officiel, un peu par peur du ridicule. C'est le côté cartésien des Français. Côté anglais, allemand, autrichien, on va très loin. Il y a des chiens décorés, il y a des cités à l'ordre du régiment, de l'armée, etc. Il y a des chevaux décorés.
Pendant la guerre, juste après ?
Et après la guerre. Et après la guerre, par exemple, en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, il y a des défilés réguliers d'anciens combattants avec les chevaux. Et on a des photos qui montrent les chevaux. Ils portent leurs médailles sur le frontal. Et ils sont promenés comme ça. Il y a une véritable reconnaissance. Et il y a des monuments aussi qui sont érigés dans les années 20 en faveur des chevaux. Par exemple, il y a une division anglaise qui commande un monument qu'elle fait ériger dans la Somme, dans un petit village de la Somme, et qui montre un artilleur en train d'enlever le mort de son cheval agonisant et en train de l'embrasser pour se dire au revoir. C'est une scène très forte qui est tirée d'un tableau qui a été peint en 1915 et qui a eu une immense fortune en Grande-Bretagne, qui a été reproduit sous 36 formats, vignettes, cartes postales, etc.
C'est ce monument érigé à Coing, c'est ça, dans la Somme,
en 2004, c'en est un autre. Celui-là, il date de 25 à peu près. Mmh. Alors à Coing, c'est un monument 2004 et ça montre bien, il y a eu des monuments au début des années 20, oui. Puis après on a oublié les animaux, et des monuments dans les années 2000, à une époque on recommence à s'en occuper. Donc il y en a eu un coin inauguré par deux associations d'anciens combattants.
Et on va tout de suite écouter justement ce qu'on peut lire sur la plaque commémorative.
Aux innombrables et humbles créatures de Dieu qui ont suivi les hommes, ont souffert et ont péri durant les dernières guerres. Avec fidélité et courage, elles ont beaucoup enduré et sont tombées pour nous. Sachons nous souvenir d'elles avec gratitude et affection. Que leur souffrance et leur mort nous amènent à savoir apporter plus de gentillesse et de respect aux animaux vivants. Western Front Association et Souvenirs français 2004.
Alors les pertes, Éric Baratet, justement, est-ce qu'on peut à peu près estimer, moi j'ai relevé dans votre livre, vous disiez côté allemand, 32% des chevaux sont morts, 22% côté britannique, 15% côté français, et pour les chiens, 23 à 25% en moyenne.
Oui, côté français, c'est beaucoup plus.
C'est plus que ça.
C'est 40% côté français.
D'accord.
Ce qui est un taux de mortalité absolument énorme. Ça donnerait à peu près 4 millions de morts humains si on l'avait appliqué aux hommes. Donc c'est absolument énorme. Mais il y a de grosses différences entre pays. Effectivement, on est à 15-20% côté anglais, c'est-à-dire deux fois moins. Et on voit bien là l'écho des attentions. Si les attentions sont plus ou moins fortes, on se retrouve avec des taux de mortalité plus ou moins forts. Ce qui montre bien que les animaux ne sont pas des machines, mais bien des êtres vivants, sensibles, et qui répondent à leur manière. Tomber malade ou mourir d'épuisement ou de maladie, c'est une, entre guillemets, une réponse au traitement qu'on vous fait subir, évidemment. C'est une forme de réponse.
Et que sont devenus les survivants? Alors, est-ce qu'on s'en est préoccupé à l'image des, j'imagine, des hommes, bien évidemment, qui aussi repartent avec des traumatismes. Les animaux, eux aussi, ont dû subir, mais en même temps, à cette époque, on ne se préoccupait pas de ce terrain-là, sûrement.
On s'est peu préoccupé des réformés, puisqu'il y a eu les animaux ont été réformés à la fin de la guerre, comme les hommes. Et on a quelques textes qui disent, par exemple, que côté français, quand il a fallu rapatrier les chiens du front, on les a entassés dans des wagons et on les a un peu oubliés pendant 3-4 jours. Et on a ouvert des wagons à Paris avec des chiens morts ou morts de faim ou s'entre-dévorant. Et même côté anglais, les Anglais n'avaient pas envie, l'armée anglaise n'avait pas envie de payer le rapatriement de tous ces chevaux en Angleterre.
Où certains propriétaires, normalement, étaient censés les récupérer aussi.
Oui, il fallait payer le voyage. Et donc, les Anglais ont vendu une grande partie de leurs chevaux aux boucheries françaises, ce qui a entraîné un énorme scandale en Angleterre. Et les associations sont intervenues, notamment la SPA anglaise est intervenue, pour financer le rapatriement des chevaux. Et l'armée anglaise a été obligée d'être un peu plus généreuse sur ce plan-là.
Merci Éric Baratet. On arrive au terme de cette première partie de La Marche des Sciences. Merci à vous. Je rappelle le titre de votre livre « Bêtes de tranchée, des vécus oubliés » donc paru au CNRS Éditions. Et puis vos autres livres seront mis sur la page de La Marche des Sciences. On peut d'ailleurs rappeler parmi eux « Le point de vue animal », une autre version de l'histoire, paru au Seuil en 2012. Et merci à Bi Janati Ataï qui a lu les textes. Et tout de suite, on passe sans plus attendre à la seconde partie. Seconde partie de La Marche des Sciences, partie actualité des sciences et des magazines. Et c'est le dernier hors-série de Science et Vie qui a retenu toute notre attention ce mois-ci. Intitulé « Dieu et la science », un numéro très riche sur le sujet qui sera demain en kiosque. Et pour jeter un regard sur ce numéro, j'ai convié le philosophe et historien des sciences Michel Blé. Bonjour Michel Blé.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche au CNRS et auteur du livre, votre dernier livre, hein, « Dieu, la nature et l'homme », paru aux éditions Armand Collin. Alors ce numéro, vous y avez pris part parce que vous avez été en tant que spécialiste sollicité pour les parties en rapport avec l'histoire des sciences. Qu'est-ce qui ressort selon vous? Est-ce qu'on peut dire que la religion a été un frein ou un moteur pour les savants? Et on va voir qu'on aborde des savants à partir de Kepler.
Copernic, oui.
Copernic en premier.
Juste un mot, le numéro se répartit enfin en deux grandes masses. Il y a toute une partie qui est consacrée à ce que je dirais au phénomène religieux, à l'étude des religions dans le monde, leur répartition dans le monde, et puis au phénomène, disons, à la religion en tant aussi que l'on peut étudier du côté des sciences cognitives, de la génétique, enfin...
Le cerveau, les gènes, tout ça. Est-ce qu'on est programmé pour croire?
Donc il y a quand même un état de la question, et de ce point de vue-là, je trouve que le numéro est assez intéressant.
Très riche.
Oui, très, très riche et très intéressant. Alors, il y a toute une autre partie, évidemment, qui correspond plutôt à l'aspect Dieu pour les scientifiques et dans leur rapport. Alors, effectivement, ce qui paraît toujours très étonnant aujourd'hui, au regard de la manière dont nous fonctionnons, quoique beaucoup de scientifiques font toujours appel à Dieu, mais pas du tout de la même manière. Il est un fait qu'à partir de Copernic, oui, Dieu joue un rôle... Il ne joue pas un rôle considérable. Tous ces hommes sont des croyants, alors que l'on pensait qu'ils ouvraient vers, disons, l'athéisme. Mais c'est pas, c'est une vision totalement récurrente. Ce qui est certain, c'est qu'ils ne croient pas tous en Dieu de la même manière. Et c'est ça qui fait la différence. Et d'ailleurs, leur rapport à Dieu, je le trouve très intéressant parce qu'il est significatif de l'évolution aussi du phénomène religieux. C'est-à-dire que le statut de Dieu n'est pas le même pour un Copernic et pour un Descartes.
Alors Copernic, il faut peut-être rappeler à Michel Blais, donc c'est lui qui déclare que la Terre tourne autour du Soleil. Donc c'est le scandale de l'héliocentrisme.
Oui, mais je ne pense pas que ça soit le scandale de
l'héliocentrisme. Non, mais ça
a souvent été. Mais je ne suis même pas sûr qu'à l'époque ça ait été vraiment senti comme ça, parce que ce que fait Copernic, c'est pas exactement ce qu'on croit qu'il fait. En fait, il construit le temple de Dieu. C'est ce qu'il dit. Et construire le temple de Dieu, c'est pas être tellement, hérétique.
Donc ça veut dire que ces savants ont cherché à fonder, enfin ont fondé la science moderne en cherchant à se rapprocher de Dieu.
Ils cherchent à se rapprocher, ou du moins ils sont proches de Dieu, et il y a là une situation qui fait que, eh bien, faire construire le temple de Dieu en mettant le soleil au centre et faire de la terre un astre, parce qu'il fait de la terre un astre, c'est, disons, être plus près de ce que Dieu a voulu construire. C'est pas du tout s'éloigner de Dieu. On est beaucoup plus proche, d'autant que chez Copernic, il y a du néoplatonisme, des choses comme ça. Alors, il ne faut pas confondre, par exemple, cette attitude-là avec l'attitude d'un Giordano Bruno, qui lui...
Va payer de sa personne, quand même, sur le bûcher.
Il va payer de sa personne, mais il va payer de sa personne une foi considérable. C'est-à-dire que lui rejette l'idée d'un Dieu transcendant. Donc, c'est un Dieu immanent, mais Dieu est là, présent parmi nous. Alors, ce qui est intéressant dans Giordano Bruno, c'est en particulier sa critique du Christ. Et c'est ce qui lui vaut vraiment là le bûcher. Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de transcendance, que Dieu est immanent, n'a plus besoin de médiateur, comme il dit dans son procès, donc le Christ n'est peut-être pas nécessaire. Je ne l'ai jamais enseigné, malgré tout, mais peut-être pas nécessaire. Alors, si on prend par exemple un Descartes par rapport à ça, un grand croyant aussi Descartes, mais justement un croyant qui recrée contre Giordano Bruno une transcendance, puisque le nom de Dieu est l'infini et que son univers est indéfini. Donc on a des hommes qui se situent toujours, et là on voit bien qu'entre un Copernic et un Descartes, il y a une différence radicale, qui est la question de l'infini qui est passée au milieu et qui transforme les conceptions du monde. Et Newton, ce sera encore autre chose, puisque pour Newton, la gravité sont des principes actifs. Dieu est omniprésent, parce que certains étaient beaucoup gênés par ce Dieu cartésien qui était loin, comme ça, il avait tout créé. Là, voilà, il n'y a pas de problème. Et puis, finalement, c'est embêtant, un Dieu qui n'est pas toujours là. Donc, on le remet en activité. Le Dieu de Newton est là pour donner de l'énergie au monde.
D'accord. Donc pour Descartes, Dieu a créé le monde, mais pour Newton, Dieu l'anime.
Dieu l'anime. Oui, il est toujours là. Il y a un peu d'animisme d'ailleurs chez Newton. Newton est un homme très... Oui, il a besoin de ça. Parce qu'il n'y a pas de conservation d'énergie, comme on dirait aujourd'hui. Donc le monde s'écroule progressivement si personne ne le ranime. Alors que Descartes Dieu avait mis tout le mouvement et plus rien. Il n'y a plus d'effondrement du mouvement. Alors que Newton il y a de l'effondrement du mouvement. Alors tous ces hommes sont des croyants, mais de façon extrêmement différente. Et leur différence de croyance est liée, disons, à leur conception du monde, à la construction du monde qu'ils font. C'est-à-dire que c'est pas totalement indépendant ce qu'ils font n'est pas totalement indépendant de leur manière de vivre Dieu.
D'accord. Si je puis m'exprimer. Il peut y avoir des idées scientifiques et avoir une croyance, un rapprochement avec Dieu.
Ce qui est très important chez un Newton, par exemple, c'est l'un des premiers, la séparation des travaux scientifiques et des travaux religieux, théologiques, puisque Newton a beaucoup écrit en théologie, c'est très important dans les grands livres de Newton, dits de science, l'optique et la mécanique, les principes. Il n'y a pas Dieu, sauf quand on lui demande de rajouter un scoli à la fin, mais Dieu n'est pas là. C'est-à-dire que ce sont des ouvrages que l'on pourrait considérer comme laïques, modernes, il y a une séparation.
La coupure définitive, elle se ferait quand, si on devait la déterminer? Est-ce que c'est avec Louis Pasteur? Parce que bon, Charles Darwin, on le présente comme le croyant devenu athée.
Bah, il y en a avant, c'est Laplace.
Laplace.
Mais Laplace n'est pas croyant. Je ne suis pas sûr que D'Alembert soit très croyant non plus. C'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, les réussites de la science induisent à, disons, de moins en moins s'occuper de Dieu, d'autant que il y a quand même un dieu assez lointain, de tout, même le dieu d'un Voltaire, c'est du déisme, c'est loin. Le dieu de Fontenelle, il est assez loin aussi. C'est plutôt, si vous voulez, à partir du moment où Dieu s'est un peu vidé de toutes ses propriétés, oui, qu'il est devenu un être de raison. Bon, là, un peu comme chez Descartes, hein, c'est un peu un être de raison. Il est là pour fonder, mais en dehors de ça, on est tranquille, on peut faire de la science sans lui. Voilà.
Une question facile à traiter en une minute, hein, Michel Blais, oui, Saint-Paris. Oui. Dieu a-t-il encore un sens dans le monde scientifique?
Il a encore un sens pour un certain nombre de scientifiques. Je ne crois pas qu'il en ait du point de vue de la pratique de la science. C'est-à-dire qu'un scientifique fait de la science, non pas pour prouver l'existence de Dieu ou pour rendre... il ne fait pas une apologétique quand il écrit un ouvrage de physique.
Bien sûr.
Mais évidemment... certains sont des croyants et l'affirment avec vigueur.
Mais oui, parce qu'on n'a pas percé encore l'origine du monde, l'origine des origines, finalement.
Mais ça n'a pas, mais on ne l'a, c'est pas un objet de science. Mais je ne suis pas sûr que Dieu réponde à cette question non plus, d'ailleurs.
Bon, et on pourra renvoyer...
On pourrait en rediscuter de ça. Mais je ne suis pas convaincu que ça soit la réponse.
Et puis vous donnez des réponses aussi dans votre livre, hein, oui. Michel Blais, puisque là vous parlez du dogme de l'incarnation de Dieu, vous parlez de l'infini divin. Et donc je renvoie nos auditeurs à la fois sur le numéro, le dernier hors-série de Science et Vie de décembre, intitulé Dieu et la science, donc en kiosque demain, je le rappelle. Et on vous y retrouve dedans, Michel Blais, puisque vous y avez participé. Et puis votre livre, Dieu, la nature et l'homme, à recommander, est paru aux éditions Armand Collin. Merci à vous.
Merci.
Et c'est la fin de la Marche des sciences. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver toutes les informations, les liens relatifs à notre invité et à nos invités, puisqu'ils étaient deux, Éric Baratet et Michel Blais, donc sur notre site franceculture.fr, à la page de la Marche des sciences, l'émission que vous pouvez réécouter pendant 1000 jours, téléchargée pendant un an. Merci à Catherine Donnet, à Naïm Morales, à la réalisation Anne de Pelchin, à la technique aujourd'hui Bruno Gagnère-Fontanille. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, nous célébrerons les 200 ans de la mort d'Antoine Parmentier. Donc retour sur la vie très riche de ce pharmacien, agronome, hygiéniste. Au-delà de la pomme de terre, bien sûr, on sera avec Anne Muratori-Philippe et Olivier Lafont.